Le journal Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. Emmanuel Macron devant le Congrès américain, 9 ans après Nicolas Sarkozy. Le président français longuement applaudi par les élus démocrates et républicains. Nous écouterons un extrait de son discours dans un instant. Emmanuel Macron et Donald Trump qui veulent durcir l'accord sur le nucléaire iranien. Une perspective qui met en colère le régime des Mollahs, mais aussi d'autres pays signataires de l'accord. Nous ferons le point avec Pierrick Bonneau. Le chômage recule de 0,9% au premier trimestre. Un bon résultat qu'il convient de relativiser. La décrue est très lente et ne concerne pas tout le monde. Les explications d'Annabelle Grelier. La grève à la SNCF, Édouard Philippe recevra les syndicats le 7 mai prochain. En attendant, les leaders syndicaux boycottent la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Nous verrons cela avec Anne-Laure Chouin. Le dossier de ce journal consacré à l'Italie où le maire de la ville natale de Mussolini, près d'Apio, veut créer un musée du fascisme. Le reportage de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Mais on va commencer ce journal avec l'épilogue d'une polémique qui agite l'Allemagne depuis 15 jours, alors que le pays fait face à une résurgence de l'antisémitisme. Le prix Echo, que l'on peut comparer à nos victoires de la musique, va être purement et simplement supprimé. Nous sommes en direct de Berlin avec Cyril Sauvageau, bonsoir.
Bonsoir.
Cyril, cette suppression, c'est la conséquence de l'énorme scandale provoqué par l'attribution d'un trophée à 2 rappeurs accusés d'antisémitisme.
Oui, la pression était devenue trop forte. Depuis 2 semaines, les organisateurs du prix Echo étaient en pleine tourmente, accusés d'avoir offert une tribune à un duo de rappeurs, Kollega et Farid Bang, qui se comparent dans leurs textes à des prisonniers d'Auschwitz et appellent à faire une nouvelle Holocauste, ce qui ne les a pas empêchés de remporter le prix Echo de l'album hip-hop de l'année. En signe de protestation, des anciens lauréats comme le chef d'orchestre Daniel Barenboim ou le violoniste Renaud Capuçon ont rendu leur trophée, des sponsors ont retiré leur soutien. Et enfin, cet après-midi, les organisateurs, la Fédération allemande de l'industrie du disque, va donc plus loin et décide de saborder l'événement après 25 ans d'existence. Justification, ce prix ne doit en aucun cas servir de plateforme à l'antisémitisme, l'homophobie ou les appels à la violence.
Cyril, c'est tout de même une décision radicale, comme si en France on supprimait les victoires de la musique.
Oui, c'est l'équivalent des victoires de la musique et toutes les grandes stars allemandes dans tous les genres, pop, jazz ou classique, sont passées par là, des stars internationales aussi. On peut penser que la cérémonie va renaître sous une autre forme, mais tout va être d'abord revu de fond en comble. Il faut dire que c'est un prix qui a été souvent critiqué parce qu'il se base uniquement sur les chiffres de vente et pas sur la qualité artistique. Et de fait, les 2 rappeurs incriminés ont été les meilleurs vendeurs de 2017, quoi qu'on pense de leur musique. Et c'est ça qui interpelle peut-être le plus en Allemagne, à un moment où le pays s'inquiète d'une recrudescence de l'antisémitisme. Angela Merkel a reconnu dans un entretien à la télévision israélienne cette semaine que le pays faisait face à un nouvel antisémitisme importé parfois par des réfugiés ou par les immigrés musulmans. Kollega et Farid Bang sont devenus le symbole de toute une frange de la jeunesse en Allemagne qui aurait en quelque sorte oublié les leçons de l'histoire, et cela choque tout particulièrement cette société qui, on le sait, est en permanence travaillée par son propre passé.
Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France en Allemagne, merci. C'est l'un des temps forts politiques de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président français s'exprime en ce moment devant le Congrès américain. D'autres l'ont fait avant lui. Le dernier, c'était Nicolas Sarkozy en 2009. Alors hier, Emmanuel Macron avait expliqué que la France et les États-Unis devaient continuer à écrire l'histoire ensemble pour réinventer l'ordre mondial du 21e siècle. Une tonalité ambitieuse que l'on a retrouvée dans son discours au Congrès, notamment sur la question du réchauffement climatique qui divise les 2 hommes.
Il se peut que nous ayons des désaccords entre les États-Unis et la France, mais à long terme, nous aurons à faire face aux mêmes réalités parce que nous sommes citoyens de la même planète. Donc il faut faire face à cela. Et même si nous avons sur le court terme des désaccords, il faut que nous travaillons ensemble avec les responsables, les industriels et les responsables politiques. Il faut créer de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités tout en préservant notre planète. Et j'en suis convaincu Un jour, les États-Unis reviendront pour se joindre à l'accord de Paris.
Voilà pour cet extrait du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain. Vous l'avez entendu, un discours longuement applaudi par les congressistes américains. Et alors hier, Donald Trump et Emmanuel Macron avaient rapproché leur point de vue sur la question du nucléaire iranien. Et pour la première fois, ils avaient évoqué un nouvel accord nettement plus contraignant pour Téhéran. C'est ce que souhaite Donald Trump, qui a nettement durci le ton avec le régime iranien. Mais la perspective de ce nouvel accord est d'ores et déjà contestée par les signataires du texte de 2015. Pierrick Bonneau.
Le président iranien a été le premier ce matin à contester fermement la légitimité de ce nouvel accord. Hassan Rouhani écorche au passage Donald Trump, qu'il qualifie de marchand incapable de négocier des traités internationaux. L'accord de Vienne est sans alternative, selon la Russie. Nous sommes pour que l'accord soit préservé dans son état actuel, indique le ministre russe des Affaires étrangères. Du côté européen, la chef de la diplomatie de l'Union, Federica Mogherini, affirme que le texte en vigueur fonctionne. Il doit être préservé. Même son de cloche à Berlin, pas de renégociation. La priorité absolue de l'Allemagne est de sauvegarder l'accord existant et assurer son application par toutes les parties. Rappelons qu'Emmanuel Macron était lui aussi sur cette ligne. Pas de nouvel accord sur le nucléaire iranien. Jusqu'à hier, où le chef de l'État, pour la première fois devant Donald Trump, acceptait de réfléchir à un nouveau texte plus large que celui signé en 2015 et dont le président américain semble vouloir se débarrasser.
À Genève, l'émissaire américain pour la non-prolifération a précisé la position des États-Unis. Plutôt que de rouvrir l'accord de 2015, Washington propose un accord complémentaire. Donald Trump veut aboutir au plus tard le 12 mai, faute de quoi il ne prolongera pas l'assouplissement des sanctions américaines contre Téhéran. Ce scénario est-il envisageable ? On écoute l'analyse de l'ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicoulot.
C'est possible, mais la vérité, c'est que c'est quand même très 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 compliqué, hein, parce que les Iraniens sont satisfaits de l'accord actuel. Ils n'ont pas envie de rajouter de nouvelles couches à l'accord actuel, parce que c'est l'idée de notre président, c'est de dire à l'accord actuel, il faut rajouter un accord sur le balistique, un accord sur les équilibres régionaux pour essayer de contrôler l'influence de l'Iran dans la région. Et puis même dans le domaine nucléaire, il faut essayer de prolonger les clauses de l'accord actuel qui en effet s'éteignent progressivement entre 2025 et 2030 pour pouvoir se protéger en quelque sorte ad vitam aeternam. Mais toutes ces idées qui sont intéressantes en soi sont rejetées catégoriquement par les Iraniens. Ça, là-dessus, il y a un consensus, hein, entre toutes les factions politiques, que ce soit les radicaux, les opposés à Rouhani. Et Rouhani lui-même et le gouvernement sont tout à fait hostiles à l'idée de rouvrir un pareil chantier.
François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran, il répondait à Valérie Crovat. La liberté de la presse recule dans les démocraties occidentales. Sombre tableau dressé aujourd'hui par Reporters sans frontières dans son rapport 2018. Les États-Unis perdent deux places, ils sont 45e, comme s'il y avait un effet Trump sur les médias américains. En Europe, on assiste aussi à des reculs spectaculaires. La Slovaquie, par exemple, perd 10 places. Le pays est 27e après l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak. La France peut se féliciter de progresser de 6 places au 33e rang, mais RSF a des choses à dire sur la liberté de la presse dans notre pays. Christophe Deloire est le secrétaire général de l'association.
La dénonciation d'une caste journalistique, historiquement, elle a été en partie constante, et notamment au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. Mais là, on est passé vraiment à autre chose. Si on regarde bien dans le débat public, il y a beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui portent des propos extrêmement durs contre le journalisme. Jean-Luc Mélenchon, qu'il a théorisé sur son blog, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, et j'en passe. Cette doctrine de la table rase, j'allais dire du dégager les journalistes, elle est vraiment très dangereuse. La démocratie ne meurt pas simplement avec des chars d'assaut. C'est très inquiétant parce que ça prépare, l'air de rien, une forme de société de propagande. En fait, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est une montée en puissance de médias purement activistes, de médias de propagande, de médias de rumeurs. Il est très bien que, grâce aux nouvelles technologies, chacun ait accès à l'expression publique. Il est très bien qu'il y ait une forme d'ouverture du débat public. Mais néanmoins, les plateformes aujourd'hui elles sont aveugles quand il s'agit de savoir comment ont été produits les contenus. Et donc elles diffusent de la même manière des contenus qui ont été produits en respectant des règles d'honnêteté, en respectant des méthodes de vérification, et d'autres contenus complètement frelatés. Et ça, c'est un enjeu en matière de politique publique nouveau.
Christophe Deloire de RSF, il répondait à Tiffaine Cicéron. Fini les chiffres mensuels du chômage délivrés par Pôle emploi. Les statistiques sont désormais trimestrielles. Première livraison ce matin avec un bon résultat puisque le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 0,9% au premier trimestre. 3,7 millions de personnes, le meilleur résultat depuis le troisième trimestre 2014. Un bon chiffre qui s'inscrit dans un contexte de retour de la croissance en France. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Il faut tout de même relativiser cette embellie. La baisse du chômage reste très lente.
La baisse du chômage en effet se poursuit avec 32 000 chômeurs en moins sur le premier trimestre 2018, un nombre de chômeurs qui sur un an décroît d'1,2%, une décrue lente en effet, en tout cas beaucoup plus que celle décrite par l'autre indicateur du chômage, le taux de l'INSEE, qui publiera ses chiffres plus optimistes à la fin mai. Une différence qui s'explique tout simplement par la définition du chômeur que font ces deux organismes. Pour l'INSEE qui se base sur la définition du BIT, le Bureau International du Travail, un chômeur c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi et n'a pas travaillé ne serait-ce qu'une heure par semaine. Et c'est bien là où se loge une grosse différence car le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité, les catégories B et C pour Pôle emploi, poursuit sa hausse ininterrompue depuis la crise de 2008. Ces personnes qui travaillent souvent à temps partiel ou en contrat court mais restent inscrites à Pôle emploi car elles cherchent un meilleur emploi ou un emploi plus durable sont plus de 2 230 000, soit 1,5% de plus que fin 2017. La reprise économique se traduit donc dans un premier temps par des créations d'emplois plus précaires, des CDD ou de l'intérim, et des vies professionnelles alternant activité et chômage. Donc la croissance ne profite pas à tout le monde et surtout pas aux chômeurs de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an. Leur nombre est en hausse d'1,9% sur le trimestre et de 6,5% sur un an. Des chômeurs de longue durée où les plus de 50 ans sont nombreux. Le chômage des seniors que le Conseil économique et social considère aujourd'hui d'ailleurs comme une urgence sociale.
Annabelle Grelier, merci. À la SNCF, le trafic a repris ce matin normalement après la cinquième séquence de grève en pointillé marquée par un tassement de la mobilisation. Hier, Édouard Philippe a fait un petit geste en direction des syndicats en acceptant de les recevoir le 7 mai prochain à Matignon. Mais le dialogue avec le gouvernement reste difficile puisque ce matin, l'intersyndicale a boycotté la rencontre prévue avec la ministre des Transports Elisabeth Borne et une nouvelle manifestation de cheminots est programmée le 3 mai prochain. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir.
Les syndicats veulent négocier directement avec le Premier ministre mais Édouard Philippe ne donne pas l'impression de vouloir renoncer à sa réforme.
Oui, les syndicats ont annoncé la couleur tout à l'heure. Si Matignon nous redit que rien ne changera, alors Matignon portera la responsabilité de la suite du mouvement. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure donc l'intersyndicale, dont les attentes sont claires, revoir entièrement la méthode et entamer des négociations tripartites. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot.
Nous ne comprendrions pas que le Premier ministre nous reçoive pour dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Donc il doit y avoir des actes forts qui sont posés le 7, et ces actes forts, ce ne sont pas « je ne change rien, je ne bouge rien et je ne vous écoute pas ». Ces actes forts, ça doit être un calendrier de table ronde tripartite avec le patronat des transports, le gouvernement et les organisations syndicales de manière à creuser les sujets, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent.
Une attente qui avait été pourtant refroidie quelques minutes plus tôt par la ministre des Transports. Elisabeth Borne tenait ce matin, vous l'avez dit, ce qui devait être une dernière concertation, mais sans les quatre principaux syndicats qu'elle a tenu à prévenir au passage.
Je pense qu'il faut qu'ils relisent le courrier que le Premier ministre leur a adressé, dans lequel la réforme est confirmée point par point, à la fois dans son contenu, dans sa méthode et dans son calendrier.
Et dans ce courrier, en effet, il n'est question de ne parler que d'un seul point, la dette. Sur ce sujet-là encore, les syndicats estiment que le gouvernement navigue à vue en étant incapable de donner des chiffres précis. Quant à la question de savoir si cette réunion du 7 mai en bilatéral et avec les confédérations ne va pas surtout ressembler à une douche froide, la réponse de Didier Aubert de la CFDT Cheminot.
Premier ministre, quand on a annoncé dans les ondes qu'on voulait le rencontrer, il a fait répondre qu'il ne rencontrerait pas. Quand il a reçu le courrier, il nous a répondu par courrier qu'il nous recevrait. Notre ambition, c'est bien de lui expliquer et de faire une séance de pédagogie pour dire que c'est nécessaire de sortir de ce conflit par le haut en négociant clairement sur les sujets qui sont importants et qu'on ne peut pas rester à un bloc contre bloc qui remettrait en cause la démocratie sociale dans ce pays. Parce que nous avons un président qui n'a que réforme à la bouche et que si pour chaque réforme il emploie cette même méthode, ben ça deviendrait assez rapidement insupportable pour la totalité du corps social.
En attendant, la mobilisation est toujours prévue au-delà de cette réunion du 7 mai. Elle sera éventuellement modifiée en fonction de ce qui en ressortira.
Anne-Laure Chouin, merci. Rappelons que la prochaine séquence de la grève en pointillé, la sixième, débutera vendredi soir pour s'achever dimanche soir. Édouard Philippe, qui s'est employé aujourd'hui à défendre une autre réforme majeure du gouvernement, celle de l'accès à l'université. Parcoursup va réussir, a déclaré le Premier ministre à la mi-journée, alors que les évacuations des facs occupées s'accélèrent. Ce matin, plusieurs bâtiments universitaires ont été évacués à Metz et Nancy, comme à Montpellier hier, ou bien encore Tolbiac à Paris la semaine dernière. Sur ce point, sur ces évacuations, le Premier ministre tient à être ferme et promet que les examens auront lieu.
L'université est un lieu ouvert, c'est un lieu de débat, c'est un lieu où on doit pouvoir échanger librement sur tout. Mais je voudrais le dire tout aussi clairement, chaque fois que des espaces universitaires seront confisqués par de petits groupes radicaux, chaque fois que l'organisation des examens sera ciblée, nous répondrons avec fermeté. Nous ferons le nécessaire pour que les examens puissent se tenir dans de bonnes conditions. Cela a été le cas au cours des semaines passées à Lille, avec des locaux qui ont été sécurisés par les forces de l'ordre. Cela a été le cas à Montpellier la semaine dernière, où près de 2000 étudiants ont passé leurs épreuves dans des lycées mobilisés pour l'occasion.
Édouard Philippe au micro de Solène Lehen. Deuxième journée de garde à vue pour Vincent Bolloré. L'homme d'affaires est toujours entendu à Nanterre. Dans l'enquête sur des soupçons de corruption entourant l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, cette garde à vue de Vincent Bolloré doit s'achever normalement demain matin. Le dossier de ce journal nous emmène ce soir en Italie. Le pays fête aujourd'hui le 73e anniversaire de sa libération. C'était le 25 avril 1945, une date qui marque la fin du régime fasciste. Trois jours plus tard, le 28 avril, Benito Mussolini était exécuté. 73 ans plus tard, des nostalgiques du dictateur continuent à se recueillir sur sa tombe à Predappio, sa ville natale dans le centre de l'Italie. Alors pour en finir avec ces pèlerinages malsains, le maire de Predappio veut créer un musée du fascisme qui serait le premier du genre dans le pays. C'est un reportage de Mathilde Lamberti.
Le lieu choisi est on ne peut plus symbolique pour un musée du fascisme. Une immense bâtisse de 2000 mètres carrés qui abritait le siège du parti de Benito Mussolini à Predappio. Une ville nouvelle édifiée sur ordre du dictateur dans les années 20 autour de sa maison natale. Le conseiller culturel de Predappio nous ouvre les portes du chantier.
Ici c'était le centre de la vie politique et entre guillemets culturelle. Notre idée est d'affronter le symbole non pas en l'effaçant mais en le transformant comme ils le font en Allemagne. En Italie jusqu'ici si tous les musées qui portent sur l'histoire du XXe siècle ne parlent que de la guerre et de la résistance.
Le professeur Marcello Flores coordonne le projet scientifique du musée qui serait le premier sur le fascisme en Italie. Un retard qui s'explique selon ce spécialiste des totalitarismes.
La tendance par le passé a été de condamner la République sociale, mais de sauver les premières années du fascisme, tout du moins au sein d'une certaine opinion publique, modérée et conservatrice.
Le maire rêve de chasser les nostalgiques du fascisme pour les remplacer par des visiteurs, car trois fois par an, aux dates de naissance, de mort et de prise de pouvoir de Mussolini, sa petite commune de 6000 habitants se transforme en lieu de pèlerinage. La tombe du dictateur, en particulier, auprès de laquelle nous le retrouvons. Giorgio Frassinetti.
Les gens qui viennent dans cette crypte laissent des messages du type « Reviens, reviens et mets de l'ordre !» Des tas de personnes ont en tête le mythe d'un âge d'or italien, d'une Italie qui était alors respectée. Nous, nous devons d'expliquer de manière claire ce qu'était le fascisme. Ce musée sera comme un puits, tout en profondeur. Et dans le sous-sol, on racontera la guerre, les lois raciales, le colonialisme. Et quand tu sortiras de ce musée, tu n'auras plus du tout envie d'acheter un briquet avec la tête de Mussolini.
Dans la rue principale, trois magasins vendent ouvertement des bustes du Duce, des livres et des gadgets en tout genre à la gloire du fascisme. Le gérant de l'un d'entre eux nous dit hors micro que les affaires marchent toujours aussi bien en 2018. Si le maire espère avec le projet de musée se défaire d'un tourisme nostalgique, des historiens le critiquent et préféreraient un lieu plus neutre. La polémique rebondit régulièrement, mais les premiers financements sont arrivés, la moitié des 7 millions d'euros nécessaires. En juin, l'architecte sera nommé. En fin d'année, les premiers coups de pioche pour le musée, pour que Predappio devienne un lieu de mémoire sans la nostalgie.
Voilà pour ce reportage après la pio de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti. Un mot de la météo demain, un temps variable sur une grande partie du pays, très ensoleillé dans un grand quart sud-est, les températures minimales de 5 à 10 degrés en général, entre 12 et 15 sur les régions méditerranéennes, les maximales de 14 à 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 au sud, jusqu'à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. We'll be right back.